Bonsoir à tous. Je suis en compagnie de Michel Sarfati. Donc Michel Sarfati, vous êtes un rabbin d'origine franco-marocaine et vous avez en charge la communauté de Ris-Orangis dans la banlieue de Paris. Vous êtes surtout engagé dans le dialogue interreligieux et particulièrement judéo-musulman et notamment président de l'Amitié judéo-musulmane de France. Vous avez aussi écrit deux livres. Alors moi, j'ai le titre du premier, Le moine, l'imam et le rabbin. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes aussi co-auteur d'un autre livre récemment paru.
L'évêque, l'imam et le rabbin.
Et rien que le titre, donc vous l'avez écrit à trois mains. Vous l'avez écrit avec deux autres personnes, avec un évêque et un imam.
Effectivement. Le premier, nous l'avions écrit avec l'imam Mahmoud Zouhair, qui est le responsable de l'éducation au sein de l'organisation islamique de France, l'UOIF, et un moine du couvent de Soisy. Tandis que le dernier, nous l'avons écrit ensemble, l'évêque Michel Dubost, évêque du diocèse d'Evry, et Khalil Meroun, le recteur de la grande mosquée d'Evry. 10 années séparent les deux livres.
D'accord. Et je me rends compte que je ne vous ai même pas salué, donc je commence par vous dire bonjour quand même, Michel Sarfati.
Bon. Bonjour Myriam.
Et donc, je découvre l'histoire de ce livre. Vous dites qu'il y a 10 ans qui séparent les deux livres. Et pourquoi 10 ans et quelle est la différence?
Le but du premier était de présenter les positions du judaïsme, de l'islam et du christianisme sur différents sujets. Tandis que le deuxième est beaucoup plus proche de l'actualité. Et dans ce dernier, nous donnons nos opinions, qui sont parfois divergentes, sur ce qui se passe en France, sur la laïcité, sur le salafisme, sur les extrêmes, et naturellement sur la position des juifs en France, sur l'antisémitisme. Donc ce sont deux livres qui touche deux sphères, deux séries de sujets différents.
Oui, effectivement, je comprends bien. 10 ans, vu l'évolution effectivement du climat actuel de la société, effectivement, votre livre est d'autant plus important. Et je dirais à la veille des élections, encore plus.
Disons que nous ne l'avons pas fait en prévision des élections. Nous l'avons fait parce que l'an dernier, nous nous étions rencontrés, l'évêque et le recteur, à l'occasion du dîner de la fraternité, le troisième dîner de la fraternité organisé par le conseil départemental de l'Essonne, et qui faisait suite à la décision que nous avons prise en 2012, les trois, de signer un pacte de fraternité qui nous engageait, en toutes circonstances, de rester liés coude à coude pour ne pas subir les événements politiques internationaux ou les conflits qui viennent du Moyen-Orient et nous montrer à la société autour de nous comme d'abord étant intéressés par ce qui se passe en France et moins influencés par ce qui se passe au Moyen-Orient.
Oui.
Donc à la suite du pacte de fraternité, puis de la guerre d'Israël-Gaza, nous nous sommes présentés les trois lors de conférences de presse pour dire il y a plus important, c'est d'apprendre à vivre ensemble que de nous laisser entraîner par ce qui se passe à 4-5 000 kilomètres de chez nous. Et lorsque nous avons été de nouveau réunis pour le dîner de la fraternité et pour le week-end porte ouverte mosquée synagogue de la 7e édition en novembre 2015, une journaliste du Parisien a découvert notre existence et après un ou deux reportages, sa direction lui a proposé, l'a chargée de nous proposer d'écrire ensemble un livre. Ce à quoi nous nous sommes attelés pendant 3 mois. Elle nous réunissait, nous posait des questions, on répondait, on se contredisait, on donnait nos opinions divergentes, mais l'on veillait à préserver d'abord nos relations amicales et nos relations de solidarité entre les trois religions.
Et oui, et de respect. Mais quelle belle initiative courageuse et à faire connaître en tout cas. Et j'ai vu donc que depuis une dizaine d'années, vous sillonnez les routes des banlieues dans un bus. Alors, je ne sais pas si c'est dans toute la France, vous allez nous dire un petit peu après, ou seulement dans les banlieues. Aux côtés
Oui, mais
de... Oui?
puisque vous évoquez cette expérience, je peux très rapidement vous raconter dans quelles circonstances j'ai été amené à prendre cette initiative.
Oui,
Effectivement,
je n'ai pas précisé que vous étiez quand même dans le bus aux côtés d'un imam. Et voilà, vous étiez tous les deux, un rabbin et un imam, et que vous vous promeniez un petit peu dans les banlieues pour témoigner de ça.
Alors c'est vrai que ceci trouve sa source dans un événement politique qui s'est produit en Israël en 2000, lorsque l'ancien Premier ministre Ariel Sharon avait foulé l'esplanade du temple, que les musulmans appellent l'esplanade des mosquées, et aussitôt en France, on a eu un déferlement d'actes antisémites, des synagogues qui brûlaient, et on a dénombré en 2000 près de 200 actes, 50 actes antisémites. Et les années suivantes, les actes antisémites n'ont cessé d'augmenter de façon inquiétante, alors que de 1945 à 2000, la moyenne des actes antisémites commis en France tournait autour de 15, maximum 20, je dis bien la moyenne. Et voilà que brutalement, un nouvel antisémitisme apparaît et il ne s'arrêtait pas, allant crescendo et atteignant des sommets inquiétants comme celui de 2005-2006 où il y eut, recensé par l'État, par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, près de 1500 actes antisémites. Et donc les responsables communautaires juifs commençaient à s'inquiéter. Le gouvernement également ne cessait de s'interroger, puis chacun cherchait des solutions. Et puis un jour, les responsables juifs, le président du Consistoire de Paris, le président du CRIF, et de manière concomitante, le recteur de la mosquée de Paris, m'interrogent. Parce qu'il savait que j'étais impliqué dans le dialogue judéo-chrétien depuis de longues années.
Ah, d'accord.
Et donc, il me demande, d'après moi, quelles solutions pouvait-on mettre en œuvre pour lutter contre ce nouveau phénomène, le nouvel antisémitisme. Et ma réponse immédiate a été de dire, il faut aller à la rencontre des auteurs de ces actes. Parce que je n'ai aucun doute que ces auteurs ne viennent pas des beaux quartiers, ils viennent des quartiers sensibles. Par conséquent, il faut sortir de notre confort, de notre luxe, de notre entre-soi et aller à la rencontre des populations des quartiers sensibles, parce que la plupart des auteurs des actes antisémites venaient de ces quartiers. Et à
Mais
partir de
oui.
là, tout le monde, tous les responsables m'ont dit, mais comment voulez-vous faire? C'est immense parce que les actes antisémites se distribuaient sur tout le territoire. Et c'est là que j'ai dit, qu'à cela ne tienne, on fait le tour de la France. Et j'ai ainsi fait 12 tours de France avec des équipes qui se succédaient d'année en année. Les trois
Ah
premières
oui.
années avec les membres du bureau. Les années suivantes, j'ai pris conscience qu'il me fallait absolument un psychologue ou une psychologue. Et un imam. Ces deux personnalités étaient centrales pour moi parce qu'il fallait chercher à comprendre ce qui motivait les actes antisémites et comment quelque part, retenir la passion ou la haine du juif, eh bien, il fallait un imam. Les expériences que nous avons menées sont tellement nombreuses que un livre ne suffirait peut-être pas. On a fait 10 tours de France, mais quand je dis 10 tours, 12 tours de France, il s'agissait principalement de repérer les quartiers sensibles, c'est-à-dire les quartiers que l'État a désignés il y a jusqu'à il y a 3-4 ans par le sigle ZUS, zone urbaine sensible. Puis il a modifié ce terme en adoptant le terme quartier populaire. Et tout récemment, il a abandonné les trois titres pour adopter comme titre les quartiers politiques de la ville. Bien, donc nous allions d'abord dans les quartiers politiques de la ville que moi, je n'hésite pas à appeler devant les politiques les brasiers de France.
Oui.
Les brasiers de France, ce sont des foyers incandescents. Quand vous y entrez, vous n'êtes jamais sûr d'en ressortir. C'est bouillonnant et vous découvrez des choses que de l'extérieur, on n'imagine pas du tout. Et voilà que nous arrivons à entrer dans ces quartiers, tendre la main à cette jeunesse, discuter avec elle, décoder ses moyens de communication et arriver à dialoguer avec elle. C'est cela le travail que nous avons fait jusqu'à présent d'ailleurs, puisque nous continuons avec le dernier minibus à tourner en Île-de-France et en province, en allant de maison de quartier en maison de quartier, de centre social à nos centres sociaux, à réunir les jeunes de ces quartiers pour des tournois, pour des promenades, pour des visites, etc. Donc, ceci était une réponse parmi tant d'autres que je proposais pour lutter contre le racisme anti-juif qui a un nom, l'antisémitisme. Mais voilà que depuis 4 ou 5 ans, un autre racisme s'est développé, c'est le racisme anti-musulman.
Et
oui. L'ENA n'a pas de nom. Pourquoi elle n'a pas de nom? Parce que je refuse d'utiliser le terme islamophobie. Le terme islamophobie contient le mot islam qui veut dire religion musulmane. Or, vivant dans un pays où la liberté de conscience me dit clairement que je peux critiquer toutes les idéologies, toutes les croyances, donc toutes les religions, l'essentiel est de ne pas porter atteinte aux hommes qui la portent. Par conséquent, critiquer l'islam, critiquer le judaïsme, critiquer le christianisme, ou bien le bouddhisme, ou bien d'autres religions, ça fait partie de notre culture, et il faut porter ce message dans les quartiers sensibles, pour que la notion de blasphème ne soit jamais considérée comme un délit. Voilà, grosso modo, ce qu'a été cette entreprise des 12 Tours de France, et que nous continuons, puisque là, nous sommes en plein dans le 13e Tour de France.
Ah oui, c'est extraordinaire. Et donc, en fait, on voit bien l'évolution de ces bus. Alors maintenant, effectivement, qui sait si ça ne va pas évoluer vers encore, j'allais dire, une défense des minorités, quelles qu'elles soient.
Alors, effectivement, le bus véhicule 3 ou 4 messages. Un, il appelle à la solidarité entre juifs et musulmans, par des visuels que l'on peut voir d'ailleurs sur Facebook ou sur des reportages. Ensuite, il appelle à lutter contre les discriminations. Parce que l'État a légiféré sur les discriminations, il en a reconnu 18, puis 21. Et parmi ces discriminations figure l'acte raciste, que ce soit l'acte antisémite ou que ce soit l'acte anti-musulman. Donc nous défendons toute personne qui fait l'objet d'une discrimination à l'ethnie ou à la religion. ou à l'origine. Et troisième sujet que nous défendons dans ce parler visuel de ce bus, c'est la liberté de conscience. Effectivement, j'ai choisi un visuel qui est d'une finesse et d'une subtilité telle que lorsque le graphiste qui me l'a présenté m'a séduit et m'a fasciné. Je vous le décris très rapidement. C'est l'image d'une petite fille de couleur à qui l'on fait dire, dans une bulle, « J'ai rêvé de Dieu », première ligne. Deuxième ligne, « Elle », en grandes lettres. Troisième ligne, « était noire ». Alors vous imaginez les discussions que provoque individuel.
J'imagine.
Une fille qui rêve de Dieu, c'est une fille de couleur.
Oui.
Ensuite, elle féminise Dieu. Ensuite, elle dit que Dieu était noir.
Ah oui.
Alors, je vous laisse imaginer les réactions de beaucoup de radicaux qui ont tenté de nous arracher ce visuel.
J'imagine.
Et il est important de dire autour de nous qu'il faut relativiser les polémiques religieuses. Bien entendu, nous favorisons le dialogue des religions, mais quand on me dit « De quoi dialoguez-vous avec l'islam ?» Je réponds « N'allez pas vite avec le christianisme, aussi bien catholicisme que protestantisme, que orthodoxie. Nous avons derrière nous 70 ans de dialogue. On a franchi des montagnes et atteint des résultats extraordinaires de rapprochement entre juifs et chrétiens. Tandis qu'avec les musulmans, nous sommes au tout début. Pour certains musulmans radicaux, nous sommes suspects parce que nous avons falsifié la parole de Dieu. Donc il faut prendre le temps de leur expliquer que tout cela est bâti sur des idées fausses, qu'il n'existe pas de parole falsifiée. Nous détenons un texte, ce texte est authentique. Et de ce texte, d'abord les chrétiens se sont inspirés, ensuite les musulmans se sont inspirés pour donner naissance à l'islam. Bien. Mais il y a toujours des extrémistes qui sont bornés et à qui il est très difficile de faire admettre que Abraham n'était pas un musulman. Historiquement, Abraham n'a rien d'un musulman. Un musulman, c'est un phénomène social qui naît au 7e siècle, Abraham est du 18e siècle avant notre ère. Et donc, on ne va pas se laisser amadouer par l'explication qui signifie un musulman, c'est un individu soumis. Et le premier des individus qui s'est soumis à Dieu, c'est Abraham. Et moi, je réponds, mais pas du tout, Abraham n'est pas un être soumis, Abraham est un révolutionnaire. Le premier des hommes qui s'est révolté contre la volonté de Dieu, c'est Abraham. Donc Abraham n'est pas un être soumis, donc ce n'est pas un musulman. Donc le dialogue interreligieux entre judaïsme et islam ne fait que commencer. D'autant plus que nous parlons souvent du statut des juifs pendant 14 siècles en terre d'islam. Et ce statut était celui de ce qu'on appelle le dhimmi. Le dhimmi, c'est un statut juridique de l'islam qui concerne les chrétiens et les juifs que l'on tolérait dans un régime ou sur une terre musulmane pour ne pas les exterminer et pour ne pas les forcer à se convertir. Alors voilà que les juifs quittent presque tous les pays musulmans et se retrouvent dans les pays européens. Et 30-40 ans après, les musulmans arrivent en Europe et trouvent les juifs comme étant des citoyens égaux. Et ils sont étonnés, parce que pour eux, le juif est un individu inférieur, est un individu de catégorie basse. Mm-hmm. Comment concilier les préjugés qu'ils avaient jadis sur les juifs et le fait de se retrouver d'égal à égal avec les juifs? Cela ne se fait pas facilement.
Oui.
Donc il y a là un processus colossal de lutte contre les préjugés que les populations arabo-musulmanes et africaines apportent avec elles en Europe et en France, avec des croyances qui relèvent des fantasmes, et de leur expliquer qu'il y a place à la raison, il y a une priorité d'apprendre à vivre ensemble selon des codes logique de la culture occidentale et des valeurs républicaines de la France, et petit à petit de leur enlever la mentalité du califat ou du patriarcat. Donc tout cela relève de l'intégration progressive de ces populations migratoires qui arrivent en Europe et qui finissent par s'installer. Mais elles arrivent avec leurs préjugés.
Et oui.
Donc, urgence, aujourd'hui, si nous sommes une équipe de 10 salariés qui m'entourent pour faire le tour de la France, eh bien, ce n'est pas une équipe qu'il faudrait mobiliser, c'est un bataillon de médiateurs choisis dans les quartiers sensibles et formés à la connaissance du judaïsme et de l'islam, à leur histoire, en France. Et les amener petit à petit à rayonner autour d'eux et faire se propager autour d'eux des idées du siècle des Lumières, des idées de la raison, des idées du progrès social et de la solidarité. Voilà grosso modo un peu ce que fait notre association.
Oui, et est-ce que vous êtes, alors ma question c'était, est-ce que vous êtes bien accueilli, relativement bien accueilli? Comment ça se passe quand vous arrivez dans un de ces quartiers sensibles?
Alors je dois vous dire que nous vivons des surprises et nous présentons autour de nous des contrastes. Autant l'État recense les actes antisémites et les actes anti-musulmans, autant nous entrons dans ces quartiers sensibles, nous rencontrons des populations de tous bords, nous les entendons proférer les propos les plus noirs, les plus sombres, mais jamais d'agression contre nos personnes.
Et ah, donc, c'est une bonne nouvelle. Oui. Ah,
ben ça, c'est là le contraste.
Ça c'est voudrait que... dire que peut-être il y a un... Tout le monde le dit, mais que vous êtes face à l'immense décalage entre ce que les médias véhiculent et la réalité, peut-être.
Les médias véhiculent d'abord ce qui fait flash et ce qui est un scoop. Mais quand ils me voient entrer, taquiner, vanner des enfants et m'amuser avec eux, et m'asseoir par terre avec eux, avec mes médiateurs, ils disent « il n'y a rien d'extraordinaire, ça ne mérite pas un scoop, ça ».
Et oui, et oui.
Et donc, non. Par contre, quand on entre dans un quartier ultra sensible et que des journalistes vous suivent et que ces journalistes présentent une caméra, aussitôt ça chauffe. Alors je dis aux journalistes, surtout, ne tournez pas la caméra vers les jeunes, tournez-la vers moi. Posez-moi à moi la question. Et du coup, ma réponse consiste à dire à ceux qui viennent se chauffer autour de nous et commencer à bouillonner, de leur dire « Attendez, sachez pourquoi je suis là avec une caméra. C'est pour dire à l'extérieur que je me promène parmi vous et que tout se passe bien. Donc je suis là pour casser un préjugé. Dites la vérité. » Et ils me répondent, vous avez raison, nous on n'est pas racistes, on n'a rien contre les juifs, on n'a rien contre les chrétiens, mais on a peur des caméras. J'ai dit, très bien, ta caméra, elle ne vous prendra pas, vous, elle me prendra moi. Donc, vous faites confiance. Et c'est ainsi que l'on arrive à travailler dans ces quartiers sensibles. Mais il ne faut pas se leurrer dans ces quartiers sensibles. Il y a une règle. Elle n'est pas systématique. On enseigne dans les milieux radicaux musulmans qui heureusement ne sont pas majoritaires, la haine du juif.
Oui,
Il faut haïr le juif. Il faut le détester. Et donc, qu'est-ce que nous faisons, nous?
C'est assez
impressionnant.
Alors,
nous allons nous asseoir parmi les enfants, 6, 7, 8 ans, de ces populations. Et les enfants vont dire à leurs parents, on a rencontré le rabbin, un gentil rabbin. Et les parents se plaignent, comment vous avez, auprès des maisons de quartier, comment vous avez fait, vous avez mis mon enfant devant Satan? Et les animateurs disent, eh ben, venez voir. Et voilà que ces familles musulmanes radicales, hommes, femmes, viennent et nous écoutent et discutent avec nous. Et s'aperçoivent que nous avons quelques traits communs, que nous avons quelques souvenirs communs. Et de fil en aiguille, ils vous disent, et pourquoi vous nous interdisez d'entrer dans les synagogues? Et là, à l'évidence, ils tombent dans le piège. Madame, aujourd'hui, je vous emmène visiter une synagogue. Et j'organise comme ça la visite de synagogues, de pagodes, de mosquées, de cathédrales. Et curieusement, à l'issue de la visite de la synagogue, c'est presque irrégulier. Au moins 2-3 personnes nous disent, après ce qu'on a entendu, expliquez-moi pourquoi on nous ment sur vous.
Ah là là, c'est
pourquoi
incroyable.
On nous ment sur vous.
Incroyable.
Bon, c'est la preuve que l'enseignement du mépris du juif dans ces milieux radicaux est une règle, est une habitude qui n'est pas choquante pour eux, ce qui permet de comprendre les actes antisémites et le nouvel antisémitisme qui est tombé comme un torrent sur la France. Vous imaginez, en 2015, 830 actes antisémites. Il a fallu que l'État déploie l'opération Sentinelle, 10 000 soldats, pour protéger les synagogues, les maisons, les écoles juives, etc. Et du coup, eh bien, on est tombé de 830 actes antisémites à 320, 330. Autrement dit, la peur du gendarme, elle est nécessaire. Jusqu'à ce que, petit à petit, une nouvelle génération grandisse et apprenne à vivre avec tout le monde.
Alors là, vous me disiez aussi tout à l'heure qu'au fil des années, le bus avait aussi... qu'il y avait aussi le racisme anti-musulman qui avait augmenté, bien sûr, bien évidemment, avec les actes de terrorisme, etc. Il y a l'amalgame qui s'est fait. Et donc, est-ce que la mission du bus porte ses fruits?
Alors, effectivement, le bus, il sillonne les routes de France parce que maintenant, nous avons 10 antennes de l'amitié judo-musulmane de France à travers la province. Du nord au sud, nous avons suscité des antennes, des associations qui permettent de rapprocher juifs et musulmans, et nous allons, pour les encourager, faire la promotion de ces antennes. Et de cette manière, les solidarités entre juifs et musulmans s'installent et se développent petit à petit. Donc, dans le même temps où nous luttons contre l'antisémitisme, ensemble, juifs et musulmans, nous luttons simultanément contre le racisme anti-musulman. C'est ce que nous sommes associés dans les mêmes antennes. Dans l'équipe que j'anime, qui est celle de l'association Omer, je suis le seul juif, j'ai 2 chrétiens, et j'ai 8 musulmans qui travaillent avec moi.
Ah oui, en effet.
Et ces 8 musulmans, je ne vais pas les chercher dans les beaux quartiers. Je vais les chercher dans les quartiers sensibles.
Ah ouais.
Et je discute avec eux, et je leur montre ce que je fais. Et quand je vois qu'ils sont sensibles et qu'ils sont mûrs pour travailler avec nous, alors je les recrute et je leur offre l'occasion d'un contrat de 3 ans.
Ah d'accord.
Donc ils deviennent à leur tour nos meilleurs porte-parole. La semaine dernière, nous sommes allés dans un quartier ultra-sensible au Tarteret à Corneille et on a été presque pris à partie par deux groupes. Et à un moment où je redoutais une tournure au vinaigre, j'ai appelé un de mes collaborateurs, lui-même issu de Tarteret, Hassan. Je lui ai dit, à toi de jouer. Il est descendu et devant moi, il a passé un savon à tous ses garnements. Comment, vous n'avez pas honte de vous attaquer au rabbin? Moi, et il reconnaissait un de leurs pères, un ancien copain. Sauf que lui, il travaille maintenant, il a une autre vision, il a appris à vivre avec nous. Je l'ai emmené en Israël, je l'ai emmené en Pologne, je lui ai fait visiter, comme à toute l'équipe, beaucoup de sites français pour développer chez eux l'amour de la France. Et du coup, il a des armes face à ses vieux copains qui, eux, sont encore dans le cambouis,
Eh oui.
dans ce quartier sensible. Et il s'en est parfaitement bien sorti. C'est la preuve. Les journalistes voyaient cela, ils étaient stupéfaits. Et naturellement, on guérit le mal par le mal.
Ah oui, on guérit, j'allais dire même le bien par le bien.
Non,
Alors.
je comprends. En fait, il m'arrive d'utiliser l'image du vaccin. Quel est le principe du vaccin? On prend un virus ou bien un microbe et on le retravaille et on fait de lui de nouveau une défense du corps. Bien. Donc, de la même manière, je vais chercher les jeunes de ces quartiers, je les forme et à leur tour, ils deviennent de bons interprètes et de bons éléments pour aider leurs anciens copains à progresser, à évoluer autrement que ce qu'ils vivent dans le quartier.
Oui, c'est formidable. Et voilà, en écho à tout ce que vous dites, je vous inviterai à écouter quand elle sera publiée. J'ai interviewé dernièrement justement le Chir Mohamed Nokari au Liban, qui m'a dit qu'il a écrit Lettre à mon cousin juif. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Et lui, il œuvre dans le dialogue, par contre, islamo-chrétien au Liban.
Bon, il y a
Voilà.
quelques initiatives comme ça, de ça et là, qu'il faut promouvoir, qu'il faut effectivement encourager, mais il faut avoir conscience que le travail est colossal.
Oui.
Il nous reste une génération à travailler, une génération à reprendre en main. Je ne vais pas me lancer dans la critique de l'éducation nationale, mais il y a beaucoup à faire.
Oui, j'en ai conscience.
Oui.
Alors, eh bien,
Non, je reste optimiste.
je vous remercie, Michel Serfati. Est-ce que vous auriez un mot de la fin à nous partager?
Un mot de la fin. Il faut croire en l'homme. En l'homme, il y a un fond de bonté et d'intelligence. Il faut savoir mettre en valeur ce fond de bonté et d'intelligence que chacun d'entre nous porte en lui et le développer pour qu'il l'emporte sur les autres pulsions et sur ce qui peut faire dériver un être humain durant sa vie.
Très bien, merci pour ce beau message. Et je vous souhaite une belle continuation avec les bus de la soli de j'allais dire les bus de la tolérance
Le bus de l'amitié.
et le bus de l'amitié. Voilà.
Très bien.
Au revoir, à bientôt, Michel Serfati.
À bientôt. Bon courage.